J'aimerais vous proposer ce soir une réflexion sur ce qu'on appelle les facteurs de l'éveil, c'est-à-dire ces énergies qui s'installent tranquillement dans une retraite pour témoigner d'une certaine manière que l'orientation de la conscience est correcte. Et nous commençons, lorsque nous arrivons, par expérimenter beaucoup d'obstacles, d'agitation, de somnolence, de doute, d'aversion, de désir. Et la première chose qu'il est essentiel de faire, c'est de venir à l'intérieur et de lâcher le pouvoir que nous donnons à l'extérieur. C'est de la faute à l'autre, c'est de la faute à la situation, c'est de la faute, il faudrait que je sois ailleurs. C'est la première chose qui se pose. Je prends ma responsabilité. Je me souviens d'un élève que j'avais dans l'enseignement spécialisé, Arbias, qui était un élève très difficile. Il avait compris quelque chose quand il avait compris le pouvoir qu'il donnait à l'autre en disant c'est ta faute. Et c'était beau, parce que sitôt qu'il y avait un problème, on était autour d'une table en train de jouer, et puis ça y est, quelque chose lui blessait le cœur, et puis boum, et puis c'était de la faute de l'autre. J'ai dit, mais écoute Arbias, tu te rends compte? Le pouvoir que tu donnes à l'autre, toujours en disant c'est de sa faute, mais prends ton propre pouvoir, prends ta force. Et c'était merveilleux parce qu'il avait tellement compris ça que quand il était prêt à faire ça, je le regardais, on savait de quoi il s'agissait, et puis il pouvait faire ça. Ah, c'était beau! Parce qu'il voulait être fort, hein, je veux être fort. Mais il avait pigé qu'en fait, il perdait toute sa force en disant « c'est toi ». Et lorsque la pensée s'en mêle sous la force de l'habitude, ou nous donnons ce pouvoir à la situation ou à autrui, la pensée n'est pas à sa juste place. Et nous sommes en plein dans les obstacles. Il y a cette petite histoire hindoue. Une vieille légende hindoue raconte qu'il y eut un temps où tous les hommes étaient des dieux, mais ils abusèrent tellement de leur divinité que Brahma, le maître des dieux, décida de leur enlever leur pouvoir divin et de le cacher dans un endroit où il leur serait impossible de le retrouver. Le grand problème fut donc de trouver une cachette. Brahma convoqua les dieux les plus importants pour résoudre ce problème. Ils proposèrent d'enterrer la divinité de l'homme au plus profond de la terre. Mais Brahma répondit « Non, cela ne suffit pas, l'homme va creuser et il la trouvera. » Alors les dieux proposèrent de la jeter au plus profond des océans. Mais Brahma dit « Un jour ou l'autre, l'homme explorera la profondeur des océans et il la trouvera et la remontera à la surface. » Les dieux conclurent qu'il n'existait pas d'endroit où cacher la divinité de l'homme, de manière à être sûr que celui-ci ne puisse jamais la découvrir. Brahma dit alors, « Nous allons cacher la divinité de l'homme au plus profond de lui-même. C'est le seul endroit où il ne pensera jamais à aller la chercher. » Et depuis ce temps-là, conclut la légende, l'homme explore, invente, escalade, plonge, exploite à la recherche de quelque chose qui est en lui. Et nous pouvons nous souvenir de ça quand nous avons des attaques d'ambition, des attaques de dépression parce que notre vie n'est pas comme nous la voudrions. Tout est en nous. Tout est en nous. Une petite histoire de Moulana Nasruddin qui fait ce que nous faisons, parfois. À midi, comme d'habitude, Nasreddin arrête de travailler dans son champ et il va manger son casse-croûte à l'ombre d'un arbre avec un paysan voisin. Ce jour-là, il ouvre sa besace, il sort le contenu, un morceau de pain, un bout de fromage et un demi-oignon. « Toujours la même chose, » grommelle-t-il, mécontent. « Tous les jours qu'Allah fait, le même morceau de pain, le même fromage trop salé, un oignon à moitié pourri, n'y a-t-il donc pas autre chose à manger sur terre ? Pain, fromage, oignon, pain, fromage, oignon, j'en ai assez !»« Je te comprends, » dit son compagnon qui vient d'entamer une belle cuisse de poulet. « Mais pourquoi ne le demandes-tu pas à ta femme de te mettre autre chose ?»« Impossible, » dit Nasreddin. « Je ne suis pas mariée, c'est moi qui prépare le casse-croûte. » Donc, lorsque nous arrêtons les commentaires, lorsque la pensée commence à se mettre en place et que cette responsabilité vient à l'intérieur de nous-mêmes, grâce à la pleine conscience, d'autres énergies se développent. Et les facteurs de l'éveil sont au nombre de 7. Le premier, c'est la pleine conscience. On peut dire qu'on commence avec ça, c'est le facteur le plus important. Et puis, il y a 3 facteurs de mouvement. C'est l'intérêt ou la joie, qu'on a déjà un peu abordé. L'énergie et l'investigation. Et puis, il y a 3 facteurs plutôt de calme ou de tranquillité. C'est le calme, la concentration et l'équanimité. Lorsque nous parlons des obstacles ou des facteurs de l'éveil, il ne faut pas croire que nous inventons quelque chose. Nous mettons simplement des mots sur quelque chose qui se passe. Alors, bien sûr, c'est des mots qui voient certains aspects, mais les mots suivent l'expérience. Les mots ne les précèdent pas. Simplement pour nous, dans l'exercice de la méditation, c'est bon d'entendre que ces énergies se développent et d'apprendre à les reconnaître lorsqu'elles sont là. Et de même qu'avec les obstacles, nous avons l'impression de ne pas être dans la cible, qu'il y a un mal-être ou un malaise, qu'il y a séparation. Avec les facteurs de l'éveil, nous avons l'impression de vraiment faire notre part. C'est agréable. On a cette impression que je tiens mon fil rouge, que je ne suis pas dans un stress pour obtenir quoi que ce soit. Et il y a d'une certaine manière une qualité d'humilité. La pleine conscience, c'est cette orientation sage de la conscience qui fait que je commence à savoir accueillir cet espace de réceptivité. Corps, cœur, mental et conscience elle-même. Quelquefois je suis là, quelquefois je ne suis pas là et je n'en fais pas forcément un problème. Okay, je tends à être là, mais c'est autre chose que chaque fois que je ne suis pas là de me frapper avec des verges. Et quand nous avons un réel travail lié à la pleine conscience, se développe tout d'abord, ça va ensemble, hein, mais je vais parler tout d'abord de l'énergie. Lorsque nous ne pouvons pas contempler l'expérience avec l'attention pure, c'est-à-dire libérée des commentaires, le système nerveux se fatigue. C'est épuisant. Et dans la vie ordinaire, pourquoi est-ce que nous nous fatiguons tant? C'est que la pensée n'est pas à sa place. Elle est hypertrophiée, elle commente tout, elle fait des problèmes ou des merveilles de tout. Et à la longue, c'est épuisant. Et nous devons beaucoup dormir. Elles sont beaucoup dans la comparaison, source de stress parce que je suis bon ou je suis mauvais. Et je ne le vois pas. Je ne vois même pas que c'est subjectif. Je crois à tout ça. Et lorsque je commence à me mettre en retrait dans le sens de ce que Krishnamurti appelle l'observateur silencieux, que j'arrête un peu de croire à tout ce qui m'arrive, que ce soit à l'intérieur ou à l'extérieur, alors l'énergie se développe. C'est une qualité de la conscience qui est alerte et qui fait que, à terme, quelquefois nous n'avons plus besoin de dormir du tout, que le corps est posé, mais qu'il n'a pas de somnolence ou d'absence de conscience. L'énergie, c'est, au niveau de l'expérience, quelque chose qui est profondément vivant. Quand on parle de calme, le calme dans l'exercice de la méditation, c'est un calme qui est balancé par l'énergie, c'est-à-dire, ok, je suis calme, je suis posé, mais en même temps, totalement alerte. Totalement à l'écoute. Ce qui épuise aussi beaucoup l'énergie, c'est, et d'ailleurs ce qui crée, ce qui est à la base de la plupart de nos pensées inadéquates, c'est le sentiment de l'erreur. C'est ma faute, je devrais. J'ai pas fait juste. Ou c'est l'autre qui a pas fait juste, ce qui est pareil. Et il n'y a pas de confiance. Hein. Les choses ne sont pas OK telles qu'elles sont. Je me mets en conflit. Si je le vois, c'est OK, bien sûr. La pleine conscience ne cherche pas à avoir une expérience. Elle cherche seulement à mettre la lumière sur l'expérience telle qu'elle est. Et l'attention pure est reposante parce que nous avons appris à voir Mara. Et parce que je vois Mara, je lui enlève son pouvoir. Le calme vient lorsque, parce que j'ai vu les obstacles, j'arrête de vouloir que les choses soient autrement. Et il y a une forme de silence qui vient. Et avec le silence, le goût du silence. La première fois que nous expérimentons le calme, c'est frappant. Après, on s'habitue. C'est large, c'est tranquille, c'est transparent, agréable, il n'y a pas de passion. Comme un lac lorsqu'il n'y a pas d'orage. Mais avec le calme, il n'y a pas de maîtrise. C'est quelque chose qui nous arrive. Tout à coup, paf, ça y est, c'est calme. Waouh! Et c'est important d'apprécier. De même que nous apprécions quand l'énergie est là, on sent bien, en même temps le corps est posé, mais il est pleinement là. On sent ce calme qui s'installe, on le goûte. Et puis en général, ce qui se passe, c'est que la cloche sonne, je sors. Ah, c'était une bonne assise. Et puis nous revenons, pleins d'espoir, et nous nous asseyons, et nous essayons de faire le calme, et c'est pas là. Waouh! Et ça ne veut pas dire que nous ne pouvons pas nous souvenir et avoir ce souhait que nous allions vers ces qualités-là. Mais ma foi, nous, ce que nous pouvons constater, c'est qu'elles ne sont pas totalement dépendantes de nous. Et en général, lorsque nous venons nous asseoir et que nous ne pouvons pas reproduire l'expérience, alors la qualité d'investigation arrive. Mais enfin, pourquoi? C'était bien juste avant. Maintenant, je reviens, c'est plus bien. Et ce qui vient quand la qualité d'investigation est sage, c'est l'impermanence. C'est la première vérité. Quelquefois, il y a souffrance. Si je me tends et que je rejette l'expérience, je ne fais qu'en créer plus. Et c'est la deuxième vérité. Qu'est-ce qu'il y a derrière? Attachement. Ces facteurs de l'éveil, ou plutôt les expériences spirituelles, génèrent naturellement, comme toute expérience agréable dans notre vie, le désir de reproduire et l'attachement. Et alors, ce qui vient, c'est la qualité de l'intérêt. Ok, l'expérience n'est pas la même, mais qu'est-ce que c'est l'expérience maintenant? Et au lieu qu'il y ait ce désir d'avoir autre chose, cette anticipation, ce désir d'être autre chose, dans l'intérêt, je respecte l'expérience ici. Et maintenant. Ça, c'est un grand pas dans l'exercice de la méditation. Quand il y a pu y avoir ce lâcher prise, je veux que ce soit meilleur, je veux moi être le meilleur. Avec l'intérêt, nous prenons le temps. Et nous reconnaissons nos compétences quand elles sont là, la beauté de l'expérience, la bonté aussi, la nature se fait belle, le goût, toutes ces expériences spirituelles. Mais nous ne méprisons pas nos manques. Nous donnons du soin. Au jugement, à la soif d'existence, à la soif de non-existence, à la peur de perdre, au besoin d'avoir. Lorsque l'intérêt est là, ce qui se passe, c'est que l'instant devient bon. Donc naturellement, l'énergie prend sa place. L'ombre ne fait plus peur. Même à terme, nous avons tellement appris que nous apprenons à travers les énergies douloureuse, que quelque chose presque se réjouit. Ça ne veut pas dire que c'est agréable, mais la conscience sait. Ah, là, il y a quelque chose qui se dit pour moi. Donc, je vais aller plus loin. Et la qualité de l'intérêt, c'est cette grande chose à l'intérieur de la nature humaine qui fait que je transforme mes petits désirs en grands désirs. Quand il y a l'intérêt, c'est que forcément derrière, je me souviens de mon intention. Ce que je veux, c'est la libération. Et c'est pour ça que je fais ce travail. C'est pour ça que j'accepte de regarder ce qui est peu glorieux des fois et de ne pas forcément m'attacher à ce que j'aime tellement. Et j'aimerais parler un peu de cette qualité d'investigation parce qu'elle touche à la pensée, au sankhara, à ses formations, à ses constructions qui sont très puissantes. Lorsque la pensée fait des commentaires, plus ou moins conscient, ce qu'il y a au centre, c'est mon bonheur. Mais ça n'est pas vu, je ne le vois pas. Inconsciemment, c'est mon bonheur. Et là, nous pouvons nous souvenir que le seul vrai bonheur, c'est celui du lâcher-prise. D'une certaine manière, je veux mon bonheur, c'est une expérience de souffrance. Je veux la libération, c'est autre chose. Ce que je veux, c'est le lâcher prise du corps. C'est le lâcher prise de l'expérience. C'est l'abandon. L'abandon au dharma. Et dans la qualité d'investigation, il y a cette pensée qui est merveille. C'est ce qu'on appelle chanda, le désir pour la libération. Le désir pour la survie du moi, ce sont de petits désirs qui sont bien utiles parfois. C'est important de les voir. Mais dans la qualité d'investigation, s'il n'y a pas ce recul qui fait que je nomme mon intention et que c'est une intention samma, hein, dans le chemin, l'intention, ce n'est pas seulement une intention. Samma, ça veut dire qui unifie, qui rend universel. Alors, l'orientation de la pensée est probablement confuse. Et c'est très difficile de faire le clair. Et c'est important d'oser se tromper, de se tromper encore et encore, pour voir. Et peu à peu, ça se clarifie. Dans une retraite, au début, la pensée est beaucoup orientée à l'extérieur, ce que j'ai fait, ce que je pourrais faire, les images de l'extérieur, et peu à peu, elle s'oriente à l'intérieur, comment être là. Et de plus en plus, la qualité d'investigation, C'est juste le fait de nommer. J'emploie un mot pour nommer l'expérience. Dans la continuité de l'exercice, je peux nommer la fin des choses, je peux nommer l'intention. Et lorsque je veux aller dans un discernement un peu plus touffu, je le sais, je décide. Ok. Maintenant, j'aimerais faire le clair par rapport à l'impermanence. Comment est-ce que j'expérimente l'impermanence? Et je prends un temps pour ça, mais ça ne m'est pas arrivé. J'ai décidé. La concentration, c'est d'abord ce qu'on appelle la concentration d'accès. Dans le Vipassana, dans ces deux mouvements qui sont pleine conscience et concentration, hein, l'un fait ça, même s'il fait ça de manière un peu large, je peux faire ça avec le corps tout entier, ou ce mouvement-là. Pour que nous puissions vraiment ouvrir le champ de conscience, il faut pouvoir rester sans bouger. Ça ne veut pas dire sans aucune pensée, mais aucune pensée qui nous fasse bouger de l'objet de concentration. On dit pendant 21 respirations. Donc ça ne sert à rien de rester pendant toute une heure uniquement avec la respiration, à moins qu'on veuille vraiment travailler des états de concentration, ce qu'on appelle les jhanas. Hein. Lorsque nous avons un ancrage suffisant dans le corps, alors nous commençons la qualité d'investigation. Nous questionnons, qu'est-ce qu'il y a maintenant? Qu'est-ce qu'il y a pour vous maintenant? Corps, cœur, pensée. Conscience, il n'y a personne qui dort. Ou... Et sans vouloir chercher à développer les jhanas, il peut y avoir de grands plaisirs spirituels qui s'éveillent dans l'exercice du vipassana, parce que lorsque j'installe la pleine conscience, c'est en même temps une pratique de concentration. Je suis complètement là. Simplement, la pleine conscience n'a pas sa capacité ou son efficacité maximale, donc elle perd sa force et je dois revenir à la concentration pour ouvrir à nouveau. Mais peu à peu, la différence entre les deux s'estompe et l'un et l'autre, et l'autre et l'un. EST. Et les jhanas, c'est des expériences limitées, conditionnées, limitées dans le temps et conditionnées par certaines situations, qui peuvent être des vibrations corporelles, des lumières dans le corps, des plaisirs extrêmement intenses qui peuvent ressembler à l'orgasme. Et qui sont accueillis avec joie, peut-être attachement, mais une totale conscience. S'il y a de l'attachement, c'est un attachement parfaitement connu et l'effort juste est toujours là. S'il y a du doute, le doute est clair. Et comme dans tout chemin intérieur, ok, je me trompe et je rectifie. C'est le premier jhana. Et dans le deuxième jhana, d'une certaine manière, l'énergie est moins violente ou moins puissante. Quelque chose est plus coulant dans le corps, mais c'est encore un plaisir corporel, essentiellement corporel. Où le corps peut avoir l'impression d'être totalement nourri par une énergie divine. C'est puissamment bienfaisant, c'est trop bon. Le Bouddha dit bien dans ses expériences de profond bonheur spirituel que l'impermanence, il est essentiel de maintenir la conscience de l'impermanence. Ce sont des choses qui sont là, mais qui passent. Et je les laisse passer. Je suis comme prête à accueillir, mais aussi à lâcher. Il n'y a pas de manipulation. Le troisième jhana, c'est le lâcher prise du plaisir. Nous avons vu, comme pour tout, pourquoi est-ce que nous contemplons l'esprit, toutes ces énergies de l'ombre et de la lumière, nous les contemplons pour les lâcher. Une fois que j'ai vu la nature humaine en moi, c'est bon, j'ai vu. Plus besoin de m'intéresser tellement. Je peux enfin être. Et avec les jhanas, c'est pareil, une fois que nous avons bien expérimenté tout comme c'est bon, ces plaisirs spirituels, nous pouvons lâcher, et le troisième jhana, c'est quelque chose de plus simple. D'une certaine manière, nous nous rapprochons de l'ordinaire. Mais avec cette confiance de l'unification, qui, si elle n'a plus besoin d'être prouvée par des expériences, ne nous est pas enlevée. Et dans le quatrième jhana, l'équanimité est totalement présente. C'est-à-dire que l'ouverture du cœur rejoint la sagesse et que il y a un contentement. Le contentement, ça n'est pas l'extase, c'est quelque chose de bien meilleur. Et c'est aussi un profond repos énergétique. Lorsque la concentration s'installe, il y a aussi cette manière de pouvoir jouer avec l'esprit. Je peux aller où je veux, quand je veux. Ce n'est plus le calme qui m'arrive, c'est d'une certaine manière le dharma en moi qui décide, et le dharma en moi, il est tout puissant, il peut décider ce qu'il veut. Tant que je veux, ça ne marche pas, mais quand je m'ouvre, tout ça va ensemble. Dans une retraite, j'avais écrit « Après l'intensité des rencontres avec le paradis et l'enfer, vient un temps où il y a une solidité, une simplicité, un profond contentement pour rien. » On a ce sentiment que les 400 kilos que je tire toujours derrière moi, j'ai coupé la corde. Je vous lis... Ça, non, c'est du Bouddha. Et le Bouddha dit, l'apparition des trois éléments perturbateurs ne peut pas toujours être évitée. Ils font partie de notre monde et leur arrivée et leur fin suivent leur propre loi, indépendamment de notre approbation ou de notre réprobation. Mais avec l'ancrage dans la pleine conscience, nous pouvons éviter d'être envahis ou perdus en eux. Nous pouvons répéter comme le Bouddha sous le Bodhi Tree que Mara ne me déloge pas de cet ancrage. Et alors la pleine conscience, elle est toujours là, qu'il y ait l'énergie, la joie, la concentration, l'équanimité ou le calme, la pleine conscience est là. Elle peut nommer, vous pouvez nommer, les énergies, avoir cette continuité avec la pleine conscience. L'image, c'est de frapper une bûche. Il suffit pas d'être là une fois, il faut être là et être encore là et être encore là. Je frappe une bûche, une fois elle va pas fendre, mais tout d'un coup on ne sait pas pourquoi, à la 11e, elle fend. Ça demande donc comme une force, l'énergie et le calme, c'est un peu comme une force d'inertie. J'y vais, je le fais et je le fais encore. Il y a ce vrai modèle que je voulais vous lire. Avec la pleine conscience, c'est comme un baquet dans lequel tombent des gouttes de conscience. Il faut laisser tomber énormément de gouttes pour remplir le baquet. Parfois, on imagine le baquet plein. On se prend pour un grand bodhisattva, on se valorise, on se trouve bien. Parfois, on imagine le baquet vide, on se sent misérable, bien loin de connaître la vérité et l'amour. Parfois, on compare avec le baquet de l'autre et on sépare. L'état des baquets de chacun n'a aucune importance. C'est à la goutte que nous nous lions. Et goutte à goutte, à notre insu, le baquet se remplit. C'est un déroulement mystérieux qui échappe à notre contrôle. Vouloir aller plus vite engendre seulement la souffrance. Voilà ce qu'ils disent par rapport à la concentration. Mais la sensation de plaisir qui émerge de l'exercice n'envahit pas son esprit et ne s'agrippa pas. Le Bouddha, après chaque description des jhanas, il renomme cette parole-là qui est tellement importante, peu importe qu'on parle des jhanas ou de n'importe quelle expérience plaisante, mais la sensation de plaisir qui émergea de l'exercice n'envahit pas son esprit et ne s'agrippa pas. Ça, c'est la sagesse. Et c'est une qualité des facteurs de l'éveil. D'une certaine manière, il ne s'agrippe pas, ou plutôt, de nouveau, nous voyons l'agrippement très clairement s'il y en a. Et nous attendons éventuellement qu'il passe. C'est tout à fait autre chose de s'agripper à quelque chose en croyant que ça y est, que c'est ce que je veux, ou de voir qu'il y a de l'agrippement. Ok, j'essaye de lâcher, je ne peux pas. J'ai la patience. Et j'ai mon intention, ce que je veux, c'est le lâcher prise et la libération. Mais juste maintenant, il y a l'agrippement. Ok. C'est autre chose, vous le comprenez? Et c'est vrai que dans le travail de la pleine conscience, quand nous nommons, ok, je nomme. Il y a eu un contact, il y a eu une expérience, quelque chose. C'était désagréable. Qu'est-ce que ça crée? Ça crée que je n'aime pas. Et ce n'est pas parce que je fais de la méditation que je vais arrêter de ne pas aimer. Non, je n'aime pas, c'est vrai, c'est le réel. Mais après, et ça, j'ai aucun moyen de faire que ce soit autrement. Mais après, j'ai moyen de faire que la construction que je bâtis par-dessus ce réel soit différente. Ok, j'aime pas. Ça, c'est vrai. Je me souviens de cette expérience que je raconte souvent, tant pis pour ceux qui l'entendent souvent. Je discutais avec quelqu'un et puis j'ai senti vraiment le mépris qui venait, très consciemment. Ah tiens, mépris. Et puis un peu de honte. Et puis je trouvais que c'était bizarre parce que je le voyais très clairement, puis ça continuait, la personne me causait, puis je sentais bien qu'il y avait cette séparation. Et puis, intérieurement, j'avais l'investigation qui était là. Puis, à un moment donné, je me suis dit, ouais, mais puisque tu as honte, ça veut dire que ton mépris, tu l'aimes pas trop. Et je me suis dit textuellement, ok, mon petit mépris, je t'aime. Et prrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr lâcher. La qualité d'équanimité, nous la travaillons en étant sans préférence et en nous souvenant. Souvenez-vous, quand vous êtes en méditation, est-ce qu'il y a une préférence? Et être sans préférence, de nouveau, c'est pas prétendre que j'ai pas de préférence, mais c'est voir, ah ouais, là j'ai nettement une préférence. Eh ben, je suis sans préférence avec ça, avec l'énergie du moment. Et quelquefois, nous pouvons vraiment sentir, ah ouais, là, il y a une douleur physique, mais la conscience s'est transformée au niveau du lien qu'elle crée à la douleur physique. Il y a vraiment une qualité d'équanimité. Et c'est important de remarquer quand l'équanimité est là. C'est très important de la goûter pour qu'elle puisse s'installer avec des objets de conscience plus puissants. Donc, dans l'exercice de la méditation, en nous liant à l'expérience dans l'instant, nous faisons un travail d'accomplissement. Pourquoi je voulais vous lire Annick de Souzan? C'est une belle manière de parler de la compassion. Il est essentiel de nommer nos objets de prostitution. Ou bien nous nous prostituons à nos passions et nous les laissons agir, ou bien nous prenons en main ces énergies et nous faisons un travail de sainteté dans le sens d'une lutte avec nos démons. La prostitution du corps est moins grave que nos prostitutions intérieures. La seule manière d'aider l'autre et d'aider le monde, c'est de m'accomplir. Si je m'accomplis, j'aide l'autre à s'accomplir. C'est fort. L'effort sage, c'est un effort sacré. Parce que nous travaillons à notre deuxième naissance. C'est Maître Eckhart qui dit « L'homme a deux naissances, l'une au monde et l'autre hors du monde, c'est-à-dire spirituelle, en Dieu. Aussi longtemps que tu souffres dans ton corps, cœur, pour quoi que ce soit, fût-ce même pour le péché, ton enfant n'est pas né. Ne tombe pas pour autant dans le doute que tu souffres pour toi ou pour ton ami. Si l'enfant n'est pas né, il est cependant prêt de naître. Il est parfaitement né lorsque le cœur de l'homme ne souffre plus de rien. Alors l'homme a l'être et la substance et la nature et la joie et la sagesse et tout ce que Dieu a. » Je vous propose qu'on reste un tout petit moment en silence.